Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Women of the Seas. Récits d'aventure en mer, portraits de femmes au destin incroyable.
J'avais pas envie de quitter Ushuaïa, j'étais trop bien. Et puis, je sais pas, j'avais 20 ans et j'avais l'impression, en gros, je connaissais rien, quoi. Je pense, dans la vie, à 20 ans, bon. Et j'avais l'impression d'être acceptée comme tous les vieux marins qui revenaient d'Antarctique. Il n'y avait pas de différence, c'était génial de pouvoir se retrouver à table avec, je sais pas, il y avait Isabelle Autissier, il y avait... Lionel Daudet, il y a tous ces gens-là, quoi, Arnaud Dalen, il y avait plein de gens, et j'avais l'impression vraiment d'être dans mon milieu, alors que, je sais pas, dans leur milieu, et du coup d'être dans le mien, j'étais super bien, quoi.
Julie Léraud, 30 ans, marin. Embarquée sur de multiples voiliers des mers du Sud, des 40e rugissants au 50e hurlant.
Mon père, il avait un ketch en acier de 17 mètres, donc un beau bateau. Il l'avait trouvé dans un jardin à côté de Nantes. Il était recouvert de d'oies. Il y avait des oies dessus et des chiens d'oies. Et il a retapé sur un chantier Arzal. Et moi, je naviguais du coup avec mes parents. On naviguait dans les mers Caraïbes, Venezuela, tout ça. Mais j'étais malade souvent. La seule chose qui me rendait pas malade, c'était de barrer. Donc j'ai beaucoup barré. Mon père m'a appris à barrer. J'ai commencé à détester l'école vers la 5e, la 4e, et je sais pas, la 4e, ça devait être le début de mon adolescence, et je pense que la voile, avec du recul, je pense que la voile a d'abord été un échappatoire. Et le besoin, peut-être, le besoin d'appartenir à quelque chose, et je ne pensais, je ne mangeais, je ne voyais que voile, quoi. Il n'y avait que ça qui m'intéressait. À côté de ça, mes parents m'ont inscrit au Glénan pour des stages, pour mes 15 ans, pour mes 16 ans, ensuite pour mes 17 ans. Et donc j'ai fait des stages à Paimpol, surtout en Bretagne Nord, toujours l'hiver, toujours le plus dur possible, c'est ce que j'aimais, je crois. Et du coup, j'ai commencé à découvrir la croisière, mais sans être malade, sans avoir le mal de mer et en appréciant vraiment le truc. Il fallait pas que je rentre à l'intérieur, mais sinon, j'étais dehors, je barrais, j'étais bien. Bah là, l'école, ça devient un peu catastrophique. Je vois pas du tout l'intérêt d'être à l'école. Sachant que j'ai qu'une envie, c'est de naviguer. Et je sais exactement ce que je veux faire de ma vie. Et du coup, j'appelle le chef de base de Paimpol, de l'école de voile des Glénans de Paimpol. Je l'appelle et je lui dis, est-ce que je peux venir l'année prochaine, au mois de septembre, intégrer la base de Paimpol comme bénévole au pair, ce qui se faisait à l'époque. En gros, c'est intègre la base pendant un an. Et t'es bénévole, mais en échange, on a le droit à des formations gratuites jusqu'à passer le moniteur à voile. Et il me dit, bah oui, pas de souci, viens au mois de septembre, mais je vais quand même appeler Paris parce que t'es mineur et ça peut être, ça peut tiquer. Et puis il me rappelle pas. J'étais au lycée, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il me rappelle, et au bout de 3 semaines, je le rappelle. Et il me dit, bah non, en fait, ça le fait pas, t'es mineur, c'est pas possible et tout. Et là, une petite chute. Quand je l'ai rappelé à la veille de mes 18 ans, je lui ai dit, bon, là, je suis majeur, que je peux venir en septembre. Et là, il m'a dit, bah oui, bien sûr, viens. Du coup, bon, j'ai passé mon bac de français quand même, parce que j'avais redoublé ma seconde. Mais j'ai tout arrêté d'un coup, la clope, tout ça. Et je me suis coupé les cheveux, j'avais des dreads. Je suis partie courir et je me suis dit, bah, maintenant, c'est bon, je change de vie. Enfin, j'entame ma nouvelle vie, celle que je veux, quoi. Partie au Glénan, le 1er septembre j'y étais. J'étais 12 à intégrer la base de Paimpol là, à cette époque-là. J'ai passé très rapidement mon monitorat. C'était chouette parce qu'on était 12 de entre 18 et 60 ans. 6 filles, 6 gars. Peu importe ton âge, peu importe que tu sois une fille, parce que c'est quand même, c'est quand même important de le préciser dans le milieu de la voile. Là, il n'y avait aucun jugement, rien. En plus, j'étais la première à avoir mon monitorat, donc j'ai pu former les autres et du coup, j'ai très vite encadré. Dès le mois de février, j'ai encadré les croisières. Donc en gros, quand on encadre, on est chef de bord, on est tout seul et on a 8 personnes stagiaires du niveau 0 au niveau monitorat. J'ai aussi été formatrice après pour former des moniteurs. Navigation en mer du Nord, donc courant, cailloux. Après, ça m'a permis d'aller jusqu'en Angleterre, Écosse, Islande. Et c'est sûr que c'était... Moi, j'ai énormément appris, quoi. Voilà, sur 2 ans... Et un jour, j'étais sur le trio, je me souviens, en Bretagne Nord, en train d'encadrer, puis je passe un coup de téléphone à une copine, puis on discute, puis elle me dit « Oh, mon père, l'année prochaine, enfin, cet été, il cherche un second, là, tu sais pas qui pourrait le seconder, c'est pour une saison, c'est pour aller au Groenland, Islande, Groenland et tout. » Puis en rigolant, je dis « Bah, moi !» Et elle me dit « Bah, je peux toujours lui en parler. » Et en fait, son père m'a appelé, puis il m'a dit « Ben, ok, pourquoi pas ?» Bah, il m'a embarqué pour l'Islande et le Groenland. Là, j'ai vraiment su ce que c'était que la voile. Qu'en gros, les Glénans, la croisière, tout ça, c'était facile, quoi. Et après, je cherchais un peu du boulot et il y a une copine qui m'a dit « Mais va au salon nautique ». J'avais 20 ans à peine et j'étais hyper timide. J'ai déposé un CV et le bateau qu'ils avaient, il s'appelait Glory of the Sea. En fait, c'est Atka aujourd'hui. Glory of the Sea était à Ushuaia et il m'appelle 3 semaines après le salon et puis il me dit « Ah bah, on a besoin de quelqu'un, d'un second pour faire un charter en Patagonie et ensuite ramener Glory of the Sea d'Ushuaia en France, est-ce que t'es partante ?» Moi, je dis « Bah oui, carrément. » Donc, j'ai rejoint le bateau et le capitaine qui était là. Le bateau était à Puerto William, au Chili, là, tout au sud, juste avant le Cap Horn. Je suis arrivée, il n'y avait pas de moteur. Enfin, le moteur ne marchait pas, le bateau était dans un état... C'est une catastrophe. Et puis, la cliente qui devait venir dans les canaux, finalement, comme on n'avait pas de moteur, le truc, ça a été annulé, forcément. Du coup, j'ai passé un mois à Puerto William et ensuite à Ushuaia quand on a reçu la pièce du moteur. Et puis en passant un mois là-bas, j'ai adoré parce que je me suis fait des potes, des Chiliens, enfin c'était trop cool. Au final, au bout d'un mois, je me suis dit non, mais c'est pas la peine, je traverserai jamais l'Atlantique sud-nord. Déjà, je sais pas quand est-ce qu'on va partir et je le sentais pas du tout. Et du coup, j'ai fini par démissionner. Enfin, de toute façon, ils m'ont jamais payé ni rien. Et quand j'ai décidé de démissionner, donc, je dormais sur des bateaux différents à Ushuaia le soir et je me suis fait plein de potes, c'était cool. Je finis par démissionner et c'est un peu grâce à ça que j'ai rencontré Antoine. Il y avait un bateau qui était là, il s'appelle Explore. C'est un Challenge 67, c'est des bateaux assez connus. Et le skipper d'Explore, tasmanien aussi. Et il m'a dit, bah, si tu veux, je t'embarque pour l'Antarctique. Il y a 2 Antarctiques. Si tu veux, je t'embarque. Voilà, je te paye. Bon, je t'ai payé 400 euros, mais j'ai embarqué avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. Déjà, j'étais en Antarctique et c'était trop bien, 2 fois. Après, c'est un mec hyper maniaque et très caractériel aussi. Il était là avec sa copine qui était française. Mais ça a été quand même un petit peu dur. Mais enfin, moi, j'étais en soif d'apprendre vraiment. Et avec lui, j'ai appris, quoi. Il n'y a pas de douce. Et au bout de 2 mois, il m'a dit « Bon, maintenant, Julie, moi, je rentre en Tasmanie avec le bateau. Qu'est-ce que tu fais? Prends une décision. Est-ce que tu viens avec nous ou pas ?» Bah, moi, c'était quand même assez tentant, quoi, de faire Punta Arenas... Tasmanie, voilà, en passant par la Polynésie. Donc je lui dis bah mais enfin moi j'avais pas de sous, donc je lui dis c'est quoi le deal. Il me dit bah je te fais passer ton yacht master, parce qu'il était examinateur du yacht master, qui est le diplôme de skipper à l'international. Et je te le fais passer, je t'apprends tout pendant les 2 mois de mer, et à la fin voilà je te le donne, et puis je te paye ton billet d'avion pour n'importe où tu veux aller. Puis si je peux, j'essaie de te donner un petit peu d'argent, machin. Du coup, ben bon, c'était quand même un bon plan, un super bateau. Donc on est parti, je suis partie avec eux. Quand on a quitté les canots de Patagonie, on fêtait mes 22 ans. ça a été très dur parce que skipper est quelqu'un de très caractériel, qui n'arrive pas à se poser 2 minutes, qui fume et qui picole et qui, voilà, tout le temps. Et dès le début, 5e jour de mer, j'ai commencé à avoir le mal de mer. On faisait du prêt dans 50 nœuds de vent. Toutes les nuits, on était à la cape le long des côtes chiliennes parce que sur le plateau, il y avait trop de mer et que voilà. Moi, j'étais malade, je pense, de fatigue. J'avais plus envie d'être là. Il faisait froid. Enfin, c'était pas drôle, quoi. Et puis une nuit, j'étais chef de quart. Il y avait encore 45 ou 50 nœuds de vent. Et je sors dehors dans la nuit. Je sors choqué à la grand voile. Il y avait déjà 3 ris. Et puis lui, bah forcément, il se lève. Il a bien senti qu'il y avait des petites rafales. Et je rentre à l'intérieur et là, il me pourrit. Mais fuck, Julie, tu veux être un fucking coureur au large. Alors maintenant, tu prends une décision. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends des tours dans le Yankee ou tu te mets à la cape? Et moi, j'étais tétanisée. Je dis, bah, je sais pas si je veux être un coureur au large. Je vais pas me mettre à la cape. Sinon, il me dit, mais prends ta putain de décision. Enfin, il est parti dans une colère qui était complètement injustifiée, quoi. Il me dit, allez, maintenant, tu prends ton équipage et tu donnes tes ordres et tu fais ce que tu dois faire si t'es un putain de coureur au large. Enfin, tout ça avec des mots. Du coup, je lui dis, bon, bah, ok. La voix qui tremblait, je prends les décisions et... Je dis, bah, ok, on va abattre, on va prendre des tours dans le Yankee, et puis on va repartir, et voilà. Donc je donne les postes à tout le monde, et en fait, au bout d'un moment, il me pousse, et puis il me dit, ok, maintenant on se met à la cape. Et en fait, il a, tout ça pour dire qu'il avait un moitié un pet au casque quand même, parce qu'il s'était énervé enfin, c'était pas du tout professionnel, surtout de la part d'un marin, de s'énerver dans un coup de vent de 50 nœuds en pleine nuit, alors qu'il n'y avait aucune raison de s'énerver, et que du coup ça a mis tout le monde hyper mal, quoi. On avait 2 mois de mer à faire, et heureusement à bord il y avait un mec qui s'appelait George, un Australien, et qui était skipper, capitaine de Vieux Gréement, et qui était très 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 calme. Et il lui a dit, le lendemain il lui a dit, si tu parles encore comme ça à Julie, c'est simple, moi je débarque elle aussi. On est arrivé à Pitcairn, on voulait absolument faire escale à Pitcairn, c'est génial Pitcairn. C'est l'histoire des réfugiés du Bounty, le bateau sur lequel il y a eu une mutinerie, et l'équipage et des Tahitiennes ont trouvé une île à Pitcairn. Ils ont trouvé un caillou sur lequel se cacher et vivre, et vivre jusqu'à leur mort, en fait. Et du coup... Bah là, c'est les résidents de Pitcairn d'aujourd'hui sont les descendants de cette mutinerie qui date de, je crois, de 1800 et quelques. Donc c'est vraiment un caillou sur lequel, là, quand on y était, il y avait 47 habitants en autarcie, du coup, complète, quoi. Et donc quand on est arrivé là-bas, c'était la nuit et il n'y a qu'une lampe, genre la lampe du groupe électrogène qui scintillait dans la nuit, mais sinon c'est un caillou. Et ils nous ont appelés quand même par VHF, ils nous ont dit ah, « Ok, on vient vous chercher demain matin, enfin, super, super accueillant, quoi. » Mais bon, à Pitcairn, c'est un caillou, il n'y a pas de port, il n'y a pas d'aéroport, enfin, ça, faut oublier. Mais même le port, il y a une petite digue, mais c'est complètement exposé au vent d'est, c'est complètement exposé à la mer, en tout cas. Et voilà, c'est super difficile d'accès. Et heureusement qu'on a mouillé dans, je ne sais plus, 20 ou 30 mètres de fond, il n'y a pas de mouillage non plus. Donc on a passé la nuit à rouler. Et le lendemain matin, il y a une prame en alu là, qui arrive avec une petite bonne femme d'une cinquantaine d'années, les cheveux blancs, qui conduisait ça comme, comme une mobylette, trop cool. Et en fait, elle nous a pris, elle nous a amenés à bord, elle a surfé la vague à l'entrée là, du port. Et puis ensuite, c'est des quads, parce que comme c'est quand même, il y a quand même pas mal de dénivelé, c'est des quads qui nous ont amenés jusqu'au village. Et donc les 47 habitants nous ont super bien accueillis, mais on a tout de suite, dès qu'on a mis le pied à terre, en fait, on a été en contact avec le chef du village. Il nous a dit qu'il y avait une personne qui était gravement malade sur l'île et qui avait une appendicite et qu'il fallait rapatrier absolument au Gambier pour qu'elle puisse prendre l'avion pour être hospitalisée à Tahiti. Et du coup, comme il y a un bateau qui vient, mais toutes les 3 semaines, nous, on en a profité. Enfin, on leur a dit, oui, bien sûr, on le ramène au Gambier. Du coup, on n'a pas chômé. On a visité l'île la journée. Et puis le soir, on était partis. Donc, ils ont ramené... donc, il s'appelait Terry, le mec. Et du coup, ils nous ont ramenés à bord avec la prame. Elle était pleine de bananes, de pastèques, de cartons avec des cadeaux, de fruits, enfin, de plein de trucs pour nous remercier de ramener Terry au Gambier. Et donc, il y avait Terry et il y avait son infirmière, Melva. Et du coup, Terry, il pesait quand même, je pense qu'il pesait plus de 150 kilos. C'était un vrai Maori, bien costaud. Donc, il est allé s'allonger à l'arrière. Là, il était à l'arrière du bateau. Et du coup, il y avait sa perfusion qui sortait du hublot et qui était amarrée à côté de la barre. Et que pendant les quarts, on surveillait le goutte-goutte de la perfusion. Sauf qu'au bout de 24 heures, il a fait une... il avait une péritonite, donc je pense qu'il a fait une attaque, enfin, je ne sais pas exactement. Enfin, son cœur s'est arrêté, quoi, en tout cas. Donc, je sais pas, il était 15 heures, je me souviens. Et pour le déplacer, 150 kilos dans un bateau, c'est un ancien bateau de course, le Challenge 67, donc c'est pas... tout est bien compartimenté pour pas tomber. Donc on a eu beaucoup de mal à le déplacer pour essayer de le réanimer. Puis on n'avait pas de défibrillateur à bord. Et on a utilisé une bouteille de plongée. Enfin, en fait, on a tout essayé pour essayer de... On a mis 40 minutes, je crois, 41 minutes à essayer de le réanimer. On a appelé le médecin par l'iridium, là, par le téléphone satellite. Et puis le médecin, il nous a dit, essayez tout ça. Et en fait, avec son triple menton, c'était même hyper difficile de faire passer la canule. Enfin, bon, c'était... Et au bout de 3 quarts d'heure, le médecin a dit c'est bon, vous pouvez vous déclarer sa mort. Donc ça a été quelque chose. Et heureusement, on n'était pas très loin des Gambiers. Il nous restait un peu plus de 24 heures de mer. Donc on l'a laissé en bas parce qu'on ne pouvait vraiment pas le déplacer. On l'a laissé dans la cuisine. Donc on ne s'est pas vraiment fait à manger. Hein. Il fallait oublier. On a passé la nuit et le lendemain, on est arrivé au Gambier et là, il y avait la police qui nous attendait. Ils sont arrivés à bord et qui nous ont dit « déjà, vous allez être en quarantaine pendant 3 jours et puis on va débarquer le corps, on est en train de construire le cercueil, vous allez nous dire ce qui s'est passé, etc. » Et en fait, ils sont arrivés, c'était des métropolitains qui arrivaient tout juste de France pour 1 an au Gambier, donc ils étaient... tout blanc et ils connaissaient pas du tout la Polynésie et déjà ça commençait fort et ils sont arrivés avec les masques, le gant et tout, ils nous disent surtout faites bien attention, c'est un corps humain donc on le respecte, etc. Mais en fait au bout de 3 heures de bataille on n'arrivait vraiment pas à le sortir, il y avait plus de gants, plus de masque, plus rien parce qu'on suait comme je sais pas quoi. En fait on n'a pas réussi à sortir le corps parce qu'il était vraiment trop gros. On a essayé avec le winch de la grand voile par le capot de la cuisine. On a essayé, plein de trucs, on savait plus quoi faire, quoi. Donc en fait on a cassé la descente, on l'a sorti en entrée et on a fait l'autopsie sur dehors, quoi, dans le cockpit à laquelle j'ai participé vu que je parlais français et anglais. Et après, il y a le bateau qui arrivait avec le cercueil, mais le cercueil était trop petit, donc ils étaient 3 dessus à visser le couvercle en s'appuyant sur le couvercle. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Et après, on a fait les Gambiers-Nouvelle-Zélande. On a fait Nouvelle-Zélande-Tasmanie dans une mer... Ouais, c'était dur. La mer Tasman, c'était vraiment dur. Et avec orage, enfin foudre, tout et tout. Et en Tasmanie, moi, j'ai débarqué parce que il s'était bien foutu de moi. Qui m'a pas donné mon yacht master, qui m'a, il m'a pas payé mon billet d'avion et j'avais 150 $ de surplus de bagages et j'ai dû laisser mon sac parce qu'il a même pas été foutu de me payer mes affaires. Donc je suis rentrée, donc je suis repartie de Tasmanie après 2 mois et demi de mer avec eux, un peu en pleurant quand même. Puis en fait là j'ai rejoint Peau d'Orange à Tahiti, et sur Peau d'Orange, il y avait Brice, du coup, et il y avait Antoine. Et là, c'était génial. C'était le même bateau que Explore, un Challenge 67 aussi. Je les ai rejoints pour faire la traversée Tahiti-Ushuaïa, pour faire le retour, en fait. Et eux, ils arrivaient pareil, ils arrivaient d'Ushuaïa. On avait fait quasiment la même route à quelques semaines d'intervalle, et pas dans la même ambiance. Et à Tahiti, on a passé 3 semaines, parce qu'il fallait qu'on répare la grand voile qui avait 80 trous. On a mis la grand voile sur le quai des yachts, on était sur le quai des yachts, mais nous on faisait un petit peu pauvre quand même à côté des yachts. Et j'avais une copine qui avait une machine à coudre qui travaillait dans une voilerie avant. Et du coup, jusqu'à 23 h, jusqu'à ce que les lampadaires s'éteignent, on recousait la grand voile avec des petits patchs là. On est parti pour Ushuaïa, on était 7 à bord aussi. Et on a fait Tahiti-Ushuaïa, ce qu'on appelle après la route du gel douche. Tahiti-Ushuaïa en 23 jours. Et c'était génial. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs de mer. Parce que, bah, il y avait Antoine, en plus, on se connaissait quand même peu. Donc c'était ça passe ou ça casse, et bah, c'est passé. Puis il y avait une ambiance autant sur le même bateau. Je me souviens, c'était. Enfin, j'osais pas prendre des décisions. Il y a des moments où je me disais, bah, là, c'est bon, je peux lâcher mon. Enfin, je peux lâcher le riz, j'avais 2 personnes avec moi dans mon car, on pouvait le faire. Enfin, et lui, il s'asseyait jamais, il était tout le temps en train de courir partout. Enfin, il n'arrivait pas à se poser, c'était une pile électrique. Et là, le premier jour, je me souviens toujours, sur Peau d'Orange, j'étais de car, et puis je voulais lâcher mon riz, et je ne savais pas si je pouvais. Enfin, c'était pas le même capitaine, enfin, forcément, on est un peu perdu, quoi. Et puis je descends dans la cuisine me faire un café, et puis je vois Brice. Qui était assis sur la banquette du carré, les pieds sur la table, avec un journal dans les mains. Et là, je me dis, bon, déjà, je me dis, bah, c'est pas la même ambiance. Et puis, il me dit, bah, qu'est-ce que tu fous? T'as pas lâché ton riz? Et du coup, là, enfin, voilà, ça commençait comme ça. Je dis, bon, bah, va falloir que je m'intègre, mais ça va pas être trop compliqué, je pense. Et ça a été comme ça. Brice, c'est un super capitaine. Et pendant 3 semaines, ça a été génial, quoi. Et en plus, on est arrivé à Ushuaïa, enfin dans les canaux de Patagonie, on est rentré par le canal de Cook. Et c'était magique, parce qu'à un moment, le bateau s'arrête, quoi. Enfin, ça fait 23 jours qu'on est à la gîte, et tout d'un coup, on est à plat, il y a le moteur. Et je suis sortie pour prendre mon car, et il y avait les montagnes de chaque côté enneigées. Puis il y avait des petits dauphins qui sautaient à côté, enfin qui naviguaient avec nous. C'était trop, trop chouette. Et ouais, c'est marrant parce qu'autant en avion, quand on prend l'avion, je sais pas, même si on change complètement de paysage, du chaud au froid, du froid au chaud, ça devrait être. Et que c'est beaucoup plus radical comme changement. Je sais pas, en bateau, là, d'avoir fait ça, d'avoir quitté la chaleur et les cocotiers, 23 jours de mer où que tu vois que la mer, et puis tout d'un coup, c'est les montagnes de neige et puis les dauphins. Enfin, je sais pas, c'était complètement. C'était magnifique en fait d'arriver là, et j'ai un super souvenir, quoi. Puis on a remonté les canaux il y a bien 12 heures de tête plus. Et après on est arrivé le soir à Puerto Liam, et là on a cherché un bar d'ouvert, et bon, il n'y avait rien d'ouvert, c'était plein hiver. Et du coup, il y a quand même une petite gorgote là, qui nous a ouvert ses portes pour boire un pisco. Et en fait, on s'est installé pour boire. Enfin, on était comme à la maison. Il y avait le poêle à bois qui chauffait. Et on a mis nos chaussettes et nos bottes à sécher. On a bu un pisco et on a fini la soirée à 6 h du mat, en pleine forme. C'était trop bien. Il y a des canaux partout. Des montagnes plus ou moins hautes, pas forcément très hautes, mais c'est des falaises lisses parce qu'il pleut beaucoup. Et il y a de la mousse sinon, mais c'est voilà, c'est très, c'est ça brille quand même beaucoup. Comme si on était en montagne, mais sur un bateau. Je peux marcher partout parce que il y a beaucoup de cailloux lisses. Après, il y a les forêts qui sont. Voilà, les arbres sont complètement penchés, hein, à l'horizontale, il y a trop de vent, quoi. Alors, des fois, tu peux avoir 70 nœuds dehors, enfin, dans un grand canal, et tu as une petite crique où tu vois que bah, c'est tout lisse, et en fait, c'est un super abri. Plein d'endroits comme ça, il y a plein de mouillages à découvrir, il y a plein d'endroits, il y a plein. Sans parler des glaciers, hein, parce qu'il y a aussi des grands glaciers de partout. Tu vas de lac en lac, de cascade en cascade, enfin, c'est le paradis, quoi. Je sais pas, il y a un truc hyper paisible alors que il y a des Willy-O, là. Les Willy-O, c'est des vents catabatiques qui ça ne s'arrête pas de souffler, de pleuvoir et tout, mais il y a quelque chose de très paisible. Moi, la sensation que j'ai, parce que j'ai lu des livres aussi enfin, voilà, on a beaucoup navigué là-bas, c'est que avant il y avait les tribus, les Yamana notamment, qui vivaient là, les Indiens, et qui vivaient à poil et qui s'en usaient de graisse de phoque pour aller chasser le poisson, enfin pêcher des poissons. Ils ont été exterminés il y a peu de temps, c'était début 1900, je crois. Et en fait, enfin, moi j'ai toujours l'impression, je me dis toujours qu'ils sont encore là, cachés quelque part, et qu'en fait ils nous voient parce qu'ils connaissent la Patagonie par cœur, et que c'est tellement gigantesque, tellement immense, que enfin, on pourra jamais tout voir, que moi je suis persuadée qu'ils sont encore là, et du coup ça rend le truc un peu mythique.
Pour le reste, Lavko ne trouve rien. Plus de comparaison. Aucune similitude. Rien qui soit tolérable selon sa conception des choses. Toutes ces couleurs d'abord. Des hommes rouges, d'autres bleus, d'autres verts, d'autres noirs et rouges à la fois. Non pas très peints sur le corps, comme Lavko lorsqu'il part en chasse ou lorsqu'il veille un mourant, mais par complet enveloppement de la peau, bras et jambes compris. Et comment se nourrissent-ils? Si nombreux qu'il faudrait une baleine, au moins plusieurs phoques écorchées à bord de leur canon. Or Lavko ne voit rien de cela. Il ne voit pas non plus de rames, et cependant ce canot avance, change de cap, insensible au courant, écrasant les vagues de son poids, inclinant d'un côté ou de l'autre ses trois arbres chargés de feuillages blancs composés de très peu de feuilles immenses. D'autres objets encore, d'une substance qu'il ne distingue pas, et d'usages qui lui sont inconnus. Ce sont les chaînes, les ancres, les cabestans, les poulies, les câbles de moutons des haubans qui produisent un ensemble de bruits qui torturent les oreilles et le cerveau de Lavko, parce qu'aucun n'est identifiable et ne correspond à rien de connu. Qui se souvient des hommes, par Jean Raspail.
Mais il n'y a personne, on voit. Il y a les pêcheurs, les petits pêcheurs qui sont sur leur petit bateau de pêche, là, qui viennent de Chiloé, enfin d'un peu plus nord dans le Chili. Puis eux, ils pêchent la Santoya, c'est le crabe géant, là. Et eux, bah, ils parlent. Tu les vois arriver parce qu'ils ont un poêle à bois à bord, donc ça sent. Tu les sens arriver, ça sent le feu de bois. Et eux, ils savent s'amarrer un peu partout, ils s'amarrent carrément. Carrément la coque du bateau quasiment contre la falaise, quoi, parce que ça tombe tellement à pic que c'est pas un problème. Et eux, ils nous échangent souvent des cigarettes qu'ils n'ont pas le droit de fumer ni de boire, sinon. Donc ils nous échangent. Enfin, si je fumais, ils ont peut-être le droit, mais bon, ils en ont peut-être pas tout le temps. C'est contre des Santoya. Donc ils nous balancent des Santoya, c'est des crabes royaux, donc c'est des crabes qui valent de l'or. Enfin, toute cette quantité en tout cas. Et ils nous en balancent et nous, on leur file des cigarettes. Donc il faut toujours avoir des cartouches de cigarettes à bord pour eux et pour bien manger. Et voilà, donc ça c'est top, c'est à peu près les seuls bateaux qu'on croise, les bateaux de pêche et quelques voiliers quoi. Mais c'est ça qui est bien aussi, qui est génial, c'est que tu vois, c'est hyper sauvage, c'est sans doute un des derniers endroits, enfin, en tout cas navigable et où il y a, et puis sur une aussi grande surface où il y a vraiment personne. Quoi. À l'issue de ça, il y a Brice qui m'a proposé d'embarquer comme second sur Peau d'Orange pour l'année suivante. Donc je suis rentrée en France avec Antoine. Et après, on est revenu. Antoine il a continué sur Vailleray. Puis moi, j'ai embarqué sur Peau d'Orange. En fait, avec Antoine, on ne se voyait pas. C'était vraiment galère. On se croisait tout au plus, quoi. Et la seule chose qui nous a fait nous retrouver, c'est qu'il y a eu un tsunami dans le Pacifique. Et du coup, au Chili, ils avaient très peur d'avoir une vague de 2 mètres. Et ils avaient fermé le port. Et donc là, on a été enfermés dans le port, Vailleray et Peau d'Orange, et on a pu se voir 24 heures. C'est la seule chose qui... Et puis, il n'y a jamais eu de tsunami, mais c'était pas... Mais sinon, on ne se voyait pas. Et un jour, on était en Antarctique... moi sur Podo, lui sur Vailleray, puis il y avait un autre bateau à coupe, c'est un mouillage qui s'appelle Enterprise, où c'est une épave, et en fait on s'amarre à coupe de l'épave. Et il y a un autre bateau qui s'appelle Spirit of Sydney, qui était à couple. Et c'était des Australiens sur Spirit of Sydney, et puis Darrell et Kate, là, les fucking skippers, ils sont venus nous voir, et puis nous ont dit, l'année prochaine, nous on achète un bateau, et on va avoir besoin d'un couple pour skipper... Spirit of Sydney, après on aura besoin d'un coup pour prendre le relais, etc. T'étais dit avec Antoine quand même qu'on travaillerait jamais ensemble. Parce que, étant tous les deux marins, mais en ayant notre propre expérience, et je sais pas, c'est quelque chose qu'on sentait pas, quoi, de travailler ensemble et d'en être en couple. Mais en fait, on n'avait pas tort. Mais bon, là, on a quand même accepté parce qu'on s'était pas du tout vu de l'année, que ça commençait à être long. Donc, qu'on leur a dit ok, et leur deal c'était un truc, on vous paye par Antarctique, il y avait 3 Antarctiques à faire, vous êtes capitaine tous les deux du bateau, il y a 8 clients à bord, vous prenez le bateau en Uruguay, vous avez 2 mois de vacances, enfin de préparation du bateau, et ensuite vous 2 mois pour descendre tranquillement le bateau à Ushuaia, 3 Antarctiques, on vous paye, c'était 7500 euros par Antarctique chacun, donc c'était quand même hyper intéressant. Et puis voilà, et puis ensuite terminé, et si vous voulez, on continue le contrat, et puis vous travaillez pour nous, et à la fin vous avez le bateau. Bon, c'était un truc à la con, hein, franchement. Mais bon, nous on n'est pas tombé dans le piège, mais par contre on était ok pour faire une saison avec eux, de travailler pour eux. On a rejoint le bateau Spirit of Sydney en Uruguay au mois d'août, et donc on a sorti le bateau de l'eau pour mastiquer, enfin pour refaire le safran. Et en sortant le bateau de l'eau, on a vu le bateau qui commençait à cloquer, la coque qui commençait à cloquer en dessous. Et Antoine m'a dit, mais ça, si ça cloque comme ça, c'est qu'il y a de l'eau dans le mastic. Donc en fait, le bateau est en alu, mais il était mastiqué, donc il y a une couche de mastic partout, comme si c'était un bateau de course pour qu'il soit plus lisse, quoi. Et du coup, il a commencé à faire à cloquer, et notamment entre les deux safrans, il a fait une grosse cloque. Et Antoine a dit, non mais ça, il y a un truc, il faut péter les cloques. Donc on a pété les cloques, et sous les cloques, en fait, il y a de l'eau qui suintait de la coque, et le bateau était percé, quoi. Et ça, nous, on ne se voyait pas du tout partir en Antarctique 3 fois avec un bateau troué, quoi. C'était pas envisageable. Du coup, on a les 2 mois qu'on pensait profiter pour aller au Brésil ou je ne sais où, on les a passés à bosser comme des malades, parce que pour ressouder, il fallait démonter les tanks de gasoil. C'était un chantier énorme, donc il y avait tout à refaire, quoi. Et Antoine a refait les circuits gasoil, il a énormément bossé dessus c'était pour nous, hein, surtout pour qu'on soit serein, quoi, parce qu'on n'avait pas du tout la même manière de faire visiblement que les Australiens, enfin que en tout cas que Darrell et Kate. Du coup, on a refait le bateau nickel, on l'a poliché, il était tout propre. On est parti de Piriápolis, là en Uruguay, pour rejoindre Ushuaia. On a eu beaucoup de soucis sur la traversée. Enfin, on a eu le moteur qui s'est mis à fumer. C'était la courroie qui avait pété. Des trucs comme ça. Et on s'est dit quand même, à Ushuaia, On était tous les deux, on avait 23 ans, enfin, on avait dit qu'on allait prendre 8 clients australiens à bord, enfin, c'était quand même un peu engagé. Et des fois, il y a des moments où on avait envie de faire marche arrière, quoi. Et puis, bah, les clients sont arrivés. On avait tout fait bien, on avait mis une petite bouteille d'eau sur chaque bannette, alors que c'était vraiment un bateau hyper spartiate, très très bas sur l'eau. Les gens étaient obligés de rentrer dans notre cabine pour aller aux toilettes, et nous on devait dormir chacun de notre tour, un sur le dos, l'autre sur le côté, pour avoir assez de place dans la bannette. Donc c'était pas très pratique. On est parti pour l'Antarctique, et on a eu déjà beaucoup de mal de mer. Nous aussi, parce qu'on était trop stressés, je pense. Et surtout, on avait que 200 litres d'eau à bord et le dessalinisateur a capoté, il marchait plus au bout de deux jours de mer. Et là, il y a carrément les clients qui nous ont dit, mais si vous voulez, on rentre en Patagonie, c'est pas grave, on peut aller faire... C'était des skieurs, on peut aller faire du ski en Patagonie, ça peut être bien... Et Antoine, il a réparé le dessalinisateur en démontant la membrane de l'aspirateur pour la remplacer sur la membrane du dessalinisateur. Et le dessal a marché pendant 3 mois, comme ça. Mais par contre, à 130 000 de la péninsule, le truc qui nous était jamais arrivé, on a eu la banquise. Et en fait, la banquise, on était assez tôt quand même, on était au mois de novembre, fin novembre, mais c'est assez tôt dans la saison. Et la banquise dérivait de la péninsule et était en train de dériver dans le Drake, donc le passage entre le Cap Horn et la péninsule. Et une banquise infranchissable, quoi. En tout cas, pour un bateau qui faisait même pas 20 tonnes et qui ne casse pas de glace. Et nous, on avait l'habitude de travailler quand même sur des bateaux qui cassent de la glace, parce qu'ils faisaient plus de 40 tonnes et ils étaient profilés pour... Et là, nous, on a essayé un moment de passer, parce qu'il y avait Peau d'Orange qui était pas très loin de nous, donc c'était assez rassurant. Et on les a eus à la VHF et Peau d'Orange et une brise nous a dit « Allez à cette position-là, il y a un passage, moi je suis passée, allez-y. » Mais le temps qu'on y arrive, le vent s'est levé, on a commencé à passer. Moi je suis montée en haut du mât et j'ai vu un peu, dans ma tête, c'était un peu Shackleton où tout autour je voyais la banquise qui se refermait sur nous et la mer qui se levait et le plan pas bon quoi. Et du coup on est ressorti de ce canal-là, de cette ouverture et on a longé vers l'est toute la nuit, enfin, il faisait jour hein, heureusement. Je me souviens parce que je ne mange jamais de Nutella, c'est pas du tout dans mes dans mon état d'esprit, mais je me suis enfilé un pot de Nutella pour tenir toute la nuit. Et on a longé vers l'est et à un moment, je vois au radar, un bateau qui sort d'Antarctique, qui vient de la péninsule. C'était des Russes et du coup, je les appelle à la VHF et je leur demande où est-ce qu'il y a de l'eau libre. Et du coup, ils m'ont indiqué la position et heureusement, on a pris l'endroit où était passé le bateau russe, quoi. On est rentré par là, ce qui nous a fait arriver en fin de journée à Couple de Peau d'Orange, à Port-le-Croix, c'est une station antarctique, une station anglaise. Et on était heureux, mais super heureux d'être arrivé et d'avoir réussi, quoi. Et après, du coup, on a enchaîné, on a fait les 3 Antarctiques, les doigts dans le nez, entre guillemets, on n'a pas eu de soucis sur la suite. Dit qu'il fallait qu'on se mette à notre compte et on a acheté Aztec Lady fin 2015. Aztec Lady était à Granville, c'est là qu'Antoine il a grandi, il naviguait déjà dans le Grand Nord, il connaissait le propriétaire, c'est le bateau idéal pour faire du charter, ça il n'y a pas de doute, pas trop pour la vie de famille mais pour du charter c'était parfait, donc on l'a acheté et puis disons 8 mois, on part de Granville et on va en gros jusqu'au Spitzberg et au Groenland. Tous les 2 ans maintenant, on organise des séjours au Groenland. Et en fait, c'est que du charter, c'est des séjours des gens qui payent, des passagers, et pour découvrir les milieux polaires. Et voilà. Donc on est à la fois marin et guide sur place, surtout au Spitzberg, parce que les gens ils viennent surtout pour la faune. On avait tous les deux envie depuis très longtemps, de toute façon, d'avoir des enfants et de voyager avec des enfants. Avec notre vie de marin, Avoir un enfant, c'est juste s'adapter et voilà. Et il va falloir qu'on s'adapte et on va y arriver parce que je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Et c'est ce qu'on fait.
Un mois, elle avait déjà navigué 10 jours, elle avait fait toutes les îles anglo-normandes en fait. Donc là, ça fait ça va faire 2 mois, ça va faire 3 mois en fait. Donc elle avait 6 mois, ouais, ça va faire 3 mois. Donc oui, ça fait la moitié de sa vie quasiment. On la laisse dormir en passerelle
parce qu'elle aime bien le bruit du moteur, ça la berce. Puis on peut la surveiller surtout. Elle voit le GPS, elle regarde la carte.
Julie a passé le Cap Horn 30 fois à peine 23 ans. Avec Antoine, ils sont maintenant parents d'une petite Zoé. Ils ont quitté les mers du Sud et ont rejoint le cercle polaire. À bord de leur voilier Aztec Lady, ils proposent des croisières ski dans les fjords sauvages de Norvège, ainsi que des escapades au Spitzberg. Découvrez leur croisière directement en ligne et sur le site de Women of the Seas. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, découvrez le portrait d'une femme, biologiste marin, partie étudier les richesses de l'océan à bord d'un navire océanographique.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.